Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs sur France Culture du lundi au vendredi entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, logement, santé, mobilité, quel est le pouvoir du maire à 10 jours du premier tour des élections municipales et alors que les dernières listes électorales ont été bouclées, le temps du débat s'intéresse au vrai pouvoir des maires. Ces derniers se plaignent en effet d'avoir perdu des compétences depuis le développement et l'agrandissement par exemple des intercommunalités. Quelle est la différence entre ce discours qui est tenu par beaucoup et la réalité des faits? C'est ce que nous allons voir avec nos quatre invités. Daniel Béard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géographe et professeur à l'école d'urbanisme de Paris. Laurence Lemouzy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de la revue Pouvoirs locaux, on en parlera avec vous. Et puis nous sommes au téléphone, nous sommes en duplex, pardon, avec deux invités. Dominique Dumont, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de l'association des maires ruraux de la Sarthe et maire de la Fercé-sur-Sarthe. On discutera avec vous en particulier des questions de santé. Et puis Daniel Bussy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maire de Fourmonteau. Vous avez fusionné, cette commune a fusionné en 2019 avec Saint-Ouen-des-Champs et Saint-Urien pour former une nouvelle commune, Le Perret. On en parlera également avec vous.
Tout à fait.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société qui a beaucoup évolué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez un niveau d'exigence de la part de nos habitants qu'il n'y avait pas il y a quelques années.
Moi, Ça veut dire quoi? Ça se traduit comment? Expliquez-nous ce que c'est que ce niveau d'exigence.
Le niveau d'exigence, je paye des impôts, donc j'ai le droit, donc j'exige. C'est quelque chose qui s'entend, enfin que l'on entend. Plusieurs collègues vous le diront, être maire, c'est un sacerdoce aujourd'hui.
C'est ce qui remplace le prêtre dans nos villages qui n'en ont plus.
Peut-être, mais enfin, vous savez que dans une commune, le maire, dans les petits villages, il est tout à la fois. Il n'y a plus de curé, donc il faut un psy de service. Il est employé communal, il est secrétaire bis, il conduit le bus scolaire aussi. Voilà, c'est tout à la fois.
Ça vous arrive d'avoir conduit le bus scolaire ?
Fréquemment.
C'est vrai ?
Fréquemment.
Voilà, c'est le témoignage que nous avions recueilli lors du congrès des maires de France. C'était le 19 novembre dernier et c'était à Paris, évidemment, avec Pierre Rey. Il est maire d'Autrechaîne, président de l'association des maires du territoire de Belfort. Et c'était dans le temps du débat. Il ne se représente pas. Vous vous reconnaissez, Daniel Bussy, dans ce témoignage, celui qui fait tout, qui remplace le curé, le psychologue et qui, parfois, doit conduire le bus?
Bien sûr, mais... Il faut le savoir que lorsqu'on se présente aux élections, le maire est un peu l'homme représentant la population et les attentes de la population. Il doit être, à mon sens, autant le coordonnateur que la dynamique d'un village ou d'une ville. Donc, c'est pas par ignorance qu'on arrive maire et qu'on doit se dévouer pour notre population.
Vous avez été maire pendant 31 ans, vous étiez déjà conseiller municipal en 1975 et vous avez aujourd'hui à 70 ans décidé de ne plus vous représenter. Est-ce que cela participe de ce que beaucoup, on le trouve dans beaucoup de revues, de journaux, ce qu'on appelle le blues des maires ou c'est autre chose?
Non, c'est tout simplement l'âge qui me permet de dire que faut laisser la place à une nouvelle dynamique, à des plus jeunes. D'autres idées sont dans d'autres têtes et je pense qu'on est satisfait de ce qu'on a accompli depuis 30 ans.
Dominique Dumont, vous êtes avec nous donc en duplex depuis France Bleu qui vous accueille. Vous êtes maire sans étiquette de Fercé-sur-Sarthe, c'est un village de 630 habitants. Vous êtes pompier professionnel, président de l'association des maires ruraux de la Sarthe et vous avez fait parler de vous récemment à propos de cette façon que vous avez eue avec d'autres maires de la Sarthe de dire mais il ne faut plus tomber malade sur le territoire de la commune puisque nous n'avons plus les moyens d'avoir du personnel médical. C'était une façon de tirer la sonnette d'alarme à quelques semaines justement de ces élections municipales pour montrer que vous n'étiez pas content?
Alors le calendrier est ainsi, mais c'était pas du tout l'objectif de profiter des municipales du tout. C'était que en fait depuis maintenant plusieurs mois dans notre département, il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait une annonce d'une fermeture d'un service de soins ou d'un SMUR qui ne fonctionne plus, des urgences qui sont fermées, manque d'urgentistes. Et puis on voit aussi une diminution importante du nombre de généralistes et on voit que la pyramide des âges fait que dans 2-3 ans, l'état ça sera catastrophique hein, pour accéder à des soins dans notre département. Et donc, on a souhaité alerter. Alors, on l'a déjà fait à plusieurs reprises hein, en 2019, et on l'a fait de nouveau cette année d'une manière un peu plus incisive en prenant cet arrêté avec un seul objectif, hein, c'est d'alerter les pouvoirs publics, parce que ce ne sont qu'eux qui ont la main sur le sujet, qui peuvent régler cette difficulté.
Alors justement sur ces questions de santé, quel est le pouvoir qu'un maire comme vous peut avoir, ou qu'une association de maires ruraux peut avoir? On sait qu'il y a des tensions entre communes rurales en particulier, qu'on a souvent conflit, pourrait-on dire, pour pouvoir récupérer dans son cabinet médical, quand on en crée un, quand on est un maire, ou dans sa maison médicale, pour récupérer tel ou tel jeune médecin qui ne veut peut-être pas forcément s'installer tout seul, par exemple, et qui crée un conflit avec une commune voisine. Est-ce que c'est le cas, justement, ou est-ce que vous avez tellement peu de personnel médical que ça ne se pose même pas, en l'occurrence, Dominique Dumont?
Écoutez, je pense que c'est une grande erreur de croire que les élus locaux sont capables de régler ces difficultés d'accès aux soins. Aujourd'hui, le chiffre est là, il part 4 médecins généralistes à la retraite, alors qu'il n'en arrive que 2, et cette situation va perdurer jusqu'au moins en 2028. Donc, objectivement, on aura beau faire des magnifiques maisons de santé pluridisciplinaires, de salarier des secrétaires médicales, de proposer des véhicules pour se déplacer à titre gracieux, dans le meilleur des cas, on piquera le médecin du voisin. Mais en aucun cas, on permettra à ce que l'accès aux soins, qui est déjà dans un état catastrophique dans certains départements, s'améliore. Donc de penser que l'élu est capable aujourd'hui de régler cette difficulté d'accès aux soins, c'est une utopie. Seul l'État a cette capacité de le faire, en restreignant les capacités d'installation et puis en tapant un peu du poing sur la table face aux médecins, pour leur imposer sur quelques années une discipline différente, de manière à ce qu'on ne se retrouve pas dans quelques années avec une espérance de vie qui soit différente suivant le lieu où on vit en France, qui serait à mon sens catastrophique et qui aurait des conséquences sociales bien plus importantes encore.
Mmh. Laurence Lemouzy, vous regardez cela depuis le poste de directrice de la revue Pouvoirs locaux, j'imagine. Cela fait partie effectivement des discussions récurrentes. La question de la santé, la question de la répartition sur le territoire des personnels de santé est une question qui revient très régulièrement. Qui a le pouvoir dans ce domaine-là? Et d'une certaine façon, ce que vient de dire Dominique Dumont, est-ce que vous le ressentez? C'est-à-dire qu'au bout du compte, eh bien, on peut faire ce qu'on veut comme maire, mais on n'a pas le pouvoir véritablement d'attirer les personnels médicaux qui ne voudraient pas venir, bien évidemment.
Oui, le pouvoir aujourd'hui, d'ailleurs que l'on soit un maire ou un président de département ou de région, c'est le pouvoir avec l'autre.
Mmh.
On ne peut
avec l'autre collectivité,
collectivité, l'autre institution, y compris avec le pouvoir avec l'État. C'est-à-dire qu'on est passé d'un système qui était essentiellement vertical à un système qui est beaucoup plus horizontal. C'est lorsqu'on dit on est passé de la décentralisation à la gouvernance territoriale, c'est qu'il y a eu un impératif de se chaîner les uns les autres, parce que le citoyen pose des questions au maire. Et le maire n'est pas capable de répondre à lui seul, d'apporter une réponse. C'est vrai en termes de santé, de mobilité, de logement. Il est obligé de se chaîner et de faire lien avec les autres exécutifs territoriaux.
Daniel Béard, c'est ce que vous notez en tant que géographe, quand vous notez qu'il y a un fonctionnement en réseau, dites-vous, et que effectivement peut-être la façon pyramidale de concevoir le pouvoir des territoires est une façon un peu ancienne, et qu'aujourd'hui on se trouve coincé entre ce regard porté du bas vers le haut par les instances les plus élevées et du haut vers le bas par les instances les plus élevées et du bas vers le haut par les maires, par exemple, avec effectivement tout un tas d'autres niveaux qui se mêlent.
Oui, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui a changé et où du coup la responsabilité du maire est aussi en train de changer. C'est-à-dire que c'est vrai que la question, comme vous disiez tout à l'heure, du malaise des maires, etc. C'est moins le fait qu'ils ont plus de contraintes, etc. C'est le fait que ce qu'ils ont à faire et leur mandat n'est pas de même nature. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, en gros, un maire, on l'a toujours jugé sur sa capacité à faire de l'aménagement, des équipements,
enfin un gymnase, une école.
La caricature, mais c'est quand même quelque chose de vrai. C'est un bon maire, à la fin du mandat, c'est celui qui a coupé un certain nombre de rubans, quoi. Bon, voilà. Aujourd'hui, c'est plus ça. C'est un maire, il est la question de la santé que vous posez, la question de la mobilité, enfin, toutes ces questions-là sont des questions de services à rendre. Et pour rendre des services, on peut pas agir tout seul, ce que vient de dire Laurence. C'est-à-dire, il faut agir avec d'autres pour organiser des chaînes de services. Et la question qu'on n'a pas abordée, mais la question de l'environnement, etc., est encore plus une question qui oblige à travailler les interdépendances entre les territoires et entre les communes.
Daniel Bussy, vous qui avez œuvré pendant 31 ans comme maire de votre commune à Fourmeteau, eh bien, est-ce que vous avez ressenti cela, c'est-à-dire cette nécessité de tisser des alliances avec les autres niveaux de responsabilité territoriale? Et puis peut-être aussi, vous avez été un grand concepteur d'une façon de faire pour pouvoir justement maintenir commerçants et artisans dans votre commune. Est-ce que cela, c'est encore un pouvoir des maires, ou est-ce qu'il faut justement là aussi négocier avec les autres?
Pour moi, le pouvoir, c'est ce qu'on veut bien s'attribuer. Le rôle de maire évolue, comme la société, et on parlait de santé tout à l'heure. Je pense qu'il faut évoluer aussi avec les techniques. Nous en sommes en train d'expérimenter de la télémédecine avec un robot tout simplement dans le cabinet d'infirmière à côté. Est-ce que demain, le rôle du maire n'est pas non plus d'aller chercher toutes ces nouvelles techniques qui permettront d'éviter l'isolement? Et je suis aussi conscient et complètement d'accord qu'il faut aussi un rôle beaucoup plus communautaire. Nous sommes tous en réseau, nous sommes tous interconnectés. C'est le rôle du maire fait partie de cette aussi organisation qu'il faut savoir évoluer. Je suis plus optimiste que mes collègues. Et je me dis qu'en s'adaptant à la société actuelle, c'est quand même un tiers de la population française qui habite en milieu rural. On peut pas l'oublier, les pouvoirs publics ne pourront pas l'oublier. Et c'est à nous aussi d'être force de proposition, peut-être.
Oui, et puis il y a quelque chose de tout à fait évident que, en tant que géographe, vous connaissez, qui avait été travaillé, par exemple, par un très grand géographe comme Armand Frémont, Daniel Béard, c'est la question des multiples territoires sur lesquels chacun d'entre nous vivons désormais, c'est-à-dire l'impossibilité de se cantonner à un seul territoire, territoire du travail, territoire de l'enseignement, pour avoir des enfants dans une école, dans une commune à côté, territoire de vie de week-end et de vie tout le reste de la semaine. Tout cela, ce sont des territoires qui s'enchevêtrent et qui font que le maire n'a pas la maîtrise de la totalité de ses territoires de vie, de ses concitoyens.
Complètement. C'est-à-dire on est passé d'un imaginaire qui est l'imaginaire du bassin de vie. C'est-à-dire l'idée qu'on peut, même en dilatant à mesure que la vie a évolué avec
naître, vivre, etc., et mourir dans un bassin de vie.
Voilà, hein, donc on peut périmétrer l'espace dans lequel on vit à ce que vous venez de décrire, qui est moi ce que j'appelle l'archipel de vie, quoi. Donc j'ai tendance à opposer bassin et archipel, et du coup ça pose la question en effet de l'adaptation des politiques publiques, des politiques locales à cette vie en archipel, et donc coopération dans un sens, mais dans l'autre sens, c'est que du coup la commune, c'est une espèce de millefeuille, je dirais, de couches d'usages, de pratiques
qui s'interpénètrent.
C'est-à-dire, le problème de ce qu'on va vivre aux élections municipales là, c'est que qui vote, quoi? Vote, c'est le sociologue Jean Viard qui dit la démocratie locale française, c'est la démocratie du sommeil. C'est-à-dire que vont voter ceux qui dorment sur ce territoire. Or, ce qui fait vivre les communes, que ce soit à Paris ou au fin fond du rural, on a à peu près la même chose, hein. C'est que dans une commune, on a ceux qui habitent, ceux qui travaillent, ceux qui viennent consommer, etc. Et comment on fait démocratie avec ces différents usages?
Et vous le trouvez, par exemple, cela, Dominique Dumont, en tant que maire de Fercé-sur-Sarthe, avec cette association des maires ruraux de la Sarthe que vous présidez, c'est-à-dire cette difficulté à appréhender, à être même remercié en tant que maire, avec cette capacité aussi à avoir des gratifications qui ne sont pas financières, mais qui sont des gratifications de ses propres concitoyens, parce que simplement, ses concitoyens, on a moins l'occasion de les croiser, moins l'occasion de les voir, ils ne participent pas forcément totalement comme on l'espérerait ou comme on l'espérait dans le temps à la vie communale, par exemple.
Je suis pas complètement d'accord. En fait, alors évidemment, quand on est maire, si on devient maire pour avoir des félicitations, c'est forcément pas le bon choix.
Oui.
Dans le sens où, à partir du moment où on nous dit rien, c'est que c'est bon signe, que c'est le choix qu'on a fait est le bon. Et si on s'est trompé, forcément, dans un petit village, on le saura très vite. L'idée, c'est oui, c'est vrai que le rôle de maire a changé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus un rôle d'animateur, de fédérateur. On est en milieu rural avec souvent des populations en difficulté qui ont besoin d'accompagnement. On a aussi une vie associative qui a besoin d'un accompagnement de la part de la collectivité. Donc c'est aussi ça le rôle du maire aujourd'hui. C'est un rôle de fédérateur, d'assistance, d'accompagnement pour tout ce qui est démarches dématérialisées qui sont difficiles à faire. C'est aussi ça le rôle du maire. Et ce qui le rend, à mon avis, moi, plus intéressant et bien plus passionnant que de faire que des projets. Et ce qui permet aussi aux citoyens de comprendre que de vivre dans un village, parce que c'est des villages que je parle moi, c'est aussi faire lien et faire corps dans une communauté. Et ce qui, dans une population aujourd'hui, dans une génération qui a du mal à avoir des repères, me semble assez sain. Mmh. Notre rôle d'amortisseur social en ce moment, par exemple, est primordial et n'est pas, à mon sens, assez visible et assez cité.
Laurence Lemouzy, vous avez fait votre travail de thèse sur la question des imaginaires, et en particulier l'imaginaire qui est lié justement à ce pouvoir local et ce pouvoir du maire. Est-ce qu'on est en train de changer d'imaginaire? C'est-à-dire qu'effectivement, on est toujours dans des périodes où on a des sortes de mues, où on laisse des peaux anciennes et on en récupère de nouvelles. Et en l'occurrence, c'est vrai qu'on peut se dire qu'il y a le vieil usage, la vieille vision du maire que l'on peut avoir autour de sa mairie, de son clocher, etc., etc., et que ça ne correspond pas forcément. Beaucoup ont encore ça en tête, mais ça ne correspond pas forcément à ce qu'on demande à un maire aujourd'hui.
Paradoxalement, je dirais que l'imaginaire communal n'a pas tellement bougé. La commune, comme le disait...
Mais l'imaginaire peut ne pas avoir bougé, tandis que la réalité, là...
La réalité a bougé. L'imaginaire, moins... La commune, c'est toujours le lieu des émotions collectives. C'est là qu'on se réunit, hein, que ce soit sur la place du village, de la ville ou du rond-point. C'est toujours le lieu... Alors, Patrick Boucheron disait, sur la force politique des images, il avait une belle expression, la commune, c'est le lieu d'une urgence ancienne. C'est toujours le lieu de l'urgence où on adresse des questions extrêmement difficiles. On en attend toujours la même chose. On veut que ça produise, que le maire produise des effets bénéfiques, concrets, tangibles. Or, il n'est pas, et c'est là la réalité, en capacité de le faire, parce que un certain nombre de compétences d'abord sont remontées au niveau intercommunal. On explique très peu ce que c'est que l'intercommunalité. Je ne suis pas certaine que tous ceux qui iront voter d'ailleurs savent qu'ils vont avoir un impact aussi à l'échelle de l'intercommunalité. Donc il y a deux calques, hein. Si on reproduisait la France sur un calque, il y a la France du réel mais qui est celle presque qui frôle l'imaginaire, et puis il y a la France qu'on a tenté de dessiner à coups de lois, de réformes de périmètre, de montée en puissance des intercommunalités. Les deux n'arrivent pas totalement à coexister.
Mais tout de même, il y a un imaginaire qui est toujours présent et qui peut-être est un peu moins vrai. C'est l'imaginaire qu'on appelle des libertés locales. Vous évoquez Patrick Boucheron, son travail Conjurer la peur porte justement sur la question des libertés communales dans l'Italie médiévale. Mmh. Et ces libertés locales, chacun a en tête cette idée que le maire, il est tenant justement de cette liberté locale contre quoi? Contre la région, contre l'Europe, contre la nation qui peut-être voudrait les brider, ces libertés locales. Or, on s'aperçoit que la réalité, c'est justement que ces libertés locales sont, disons, contraintes, en tous les cas, par des contraintes qui viennent de plus haut.
C'est contraint par la norme nationale, c'est contraint par l'Europe aussi, hein. Et effectivement, ces libertés locales, on parle d'ailleurs de recentralisation, on parle de reprise en main par l'État, de gouvernement à distance, les libertés locales, ce récit-là, la commune le porte, mais il est quand même de plus en plus symbolique et de moins en moins réel.
Je vous propose d'écouter Sébastien Lecornu, le ministre chargé des collectivités territoriales, qui défendait en octobre dernier au Sénat le projet de loi Engagement et proximité qui a été promulgué le 27 décembre de l'année dernière.
Le deuxième sentiment, monsieur le président du Sénat, que nous avons entendu et que nous entendons lorsque nous déplaçons sur nos territoires, c'est le sentiment de dépossession des élus locaux. Vous le dites souvent, monsieur le président Larcher, les maires sont à portée d'engueulade. Encore faut-il qu'ils se fassent engueuler pour ce qu'ils ont vraiment décidé, et pas forcément pour des décisions qui ont été prises à d'autres endroits ou à d'autres niveaux. C'est naturellement toute la question de la relation entre la commune et son intercommunalité. L'intercommunalité a été un outil populaire chez les élus locaux. Malheureusement, certaines dispositions de la loi NOTRe sont venues créer des irritants. Je revendique la paternité de ce mot. et sont venus petit à petit organiser une concurrence entre l'intercommunalité et le bloc communal, avec des intercommunalités sans cesse plus intégrées, plus grandes, et qui finit par oublier que c'est le maire qui doit être au cœur de l'intercommunalité et que l'établissement public de coopération intercommunale n'est pas une collectivité territoriale, mais un établissement public au service des communes.
Voici ce que disait donc le ministre chargé des collectivités territoriales, c'était Sébastien Lecornu. C'était donc le 27 décembre dernier. Daniel Bussy, est-ce que vous avez l'impression, vous qui quittez un poste de maire de Fourmeteau, qui est une commune qui a fusionné avec deux autres communes pour créer la commune de Le Perret, est-ce que vous avez l'impression justement que ces intercommunalités vous ont bridé dans votre travail de maire depuis 31 ans?
Je partage totalement l'avis du ministre en disant que la communauté doit être un outil à disposition des maires. Et il ne faut pas oublier que c'est les maires qui gèrent les communautés de communes. Donc si on ne se dote pas des outils modernes et plus appropriés à l'attente du citoyen, ça ne peut pas fonctionner. Par contre, la fusion... nous avons procédé récemment, c'est une nouvelle, un nouveau dimensionnement du territoire en tenant compte parfaitement des flux migratoires. Par contre, une fusion qui se ferait arbitrairement et administrativement, ça ne peut pas fonctionner. Par contre, des bassins de population qui s'entendent entre eux, qui s'entraident entre eux et qui optimisent les moyens entre eux, je peux vous assurer que c'est une réalité, mais aussi... un succès dans certains endroits.
D'autant, Dominique Dumont, que ces intercommunalités, comme vous avez pu en connaître peut-être dans le département de la Sarthe, eh bien, les maires des petites communes rurales n'ont pas si peu de pouvoir pour pouvoir soit les bloquer, soit les entraver, soit, disons, leur faire des difficultés. C'est-à-dire qu'on entend ce discours, eh bien, nous sommes bridés par les intercommunalités, mais parfois les intercommunalités peuvent l'être par les maires.
Oui, en effet. Alors, sauf que l'intercommunalité a souvent comme mission de faire en sorte que les services qu'elle doit apporter à la population rayonnent sur l'ensemble du territoire. On s'est rendu compte lors de la mission Agenda Rural qu'une grande partie du sentiment d'abandon exprimé par le citoyen lors de la crise des Gilets jaunes provenait de choix d'élus qui, dans certaines intercommunalités, avaient fait en sorte que le service s'éloigne de la population, par des prises de compétences suite à une course à de la dotation de fonctionnement, enfin à des bonifications financières, mais sans faire le nécessaire pour que ces compétences rayonnent sur l'ensemble du territoire, ce qui faisait que des compétences prises par les intercommunalités éloignaient le service du citoyen. Donc ça, c'est une des premières difficultés. La deuxième difficulté, c'est aussi que la gouvernance avait besoin d'évoluer. C'est un peu le cas dans la nouvelle loi engagement proximité, où la gouvernance intercommunale va redonner de la place aux maires, chose qu'ils avaient perdue parce que l'intercommunalité est devenue un objet politique. Et peut-être grâce à ce nouveau mode de fonctionnement, on verra de nouveau les maires prendre à bras-le-corps le fonctionnement de l'intercommunalité, faire en sorte que les services qu'elle est censée apporter à la population rayonnent sur l'ensemble du territoire. Et un dernier mot sur la commune nouvelle. Il y a un vrai souci, c'est que à ce jour, la commune nouvelle ne se fait pas sans avoir une consultation citoyenne obligatoire. Nous pensons, nous, Association des maires ruraux, qu'il est nécessaire, surtout sur un enjeu aussi important, que soit le maire s'engage concrètement lors de sa profession de foi en ce moment au municipal, de dire je ferai une commune nouvelle durant mon mandat. S'il ne le fait pas, qu'une consultation citoyenne soit organisée, de manière à ce que la population puisse donner son avis sur un sujet aussi important.
Oui, il faut dire effectivement que ces fusions de communes sont souhaitées souvent par les échelons les plus élevés de l'administration, mais que parfois il y a des réticences dans beaucoup de communes à fusionner avec les communes voisines. On en discutera dans un instant. Je vous propose d'écouter une archive. Elle date du 8 avril 1970. C'est à propos de la fiscalité, en particulier la fiscalité locale, une manifestation de maires qui s'inquiétait alors de la réforme de la patente, qui était l'impôt qui alimentait les finances locales, qui a été supprimée en 1975 et remplacée par la taxe professionnelle. On entend ici André Bouloche, qui était maire de Montbéliard à l'époque en 70.
Un millier de maires de l'opposition, ceints de leur écharpe tricolore, on défilait du palais Bourbon à l'hôtel Matignon. En tête du cortège, on reconnaissait M. François Mitterrand, Guy Mollet, Gaston Defferre et André Bouloche, ainsi que de nombreux parlementaires.
M. Bouloche, des maires qui descendent dans la rue, cela n'est pas courant. Pourquoi ?
C'est qu'il y a une situation tout à fait tragique. c'est la situation des finances locales. Et nous sommes par conséquent contraints de majorer les impôts locaux contre notre gré et à cause de la politique du gouvernement. Nous sommes des gens pacifiques et nous sommes des gens respectueux de l'ordre et de la loi. Seulement, il nous paraît indispensable, étant donné la mission dont nos concitoyens nous ont chargés, d'attirer l'attention sur une situation qui est absolument intolérable.
Et pourtant, cette question pouvait se régler autre part que dans la rue.
France Culture.
Mais ça fait des semaines, des mois, des années que nous essayons de la traiter. On nous dit qu'il va y avoir une table ronde sur la patente. Mais le problème, c'est bien autre chose que la réforme de la patente.
Le temps du débat.
C'est une nouvelle répartition de l'ensemble des ressources nationales entre l'État,
Emmanuel Laurentin,
et les collectivités locales.
Vous écoutez le temps du débat consacré aujourd'hui au logement, à la santé, à la mobilité et au pouvoir des maires. Vous n'avez pas l'impression, en écoutant cette archive de 1970, Daniel Béard, de réentendre quelque chose qu'on a pu entendre, par exemple, lors du congrès de l'Association des maires de France, à l'automne dernier, sur la taxe d'habitation, sa suppression, on nous étrangle, l'État veut notre mort, d'une certaine façon. Là, c'était pour la patente, c'est-à-dire ce qui a précédé la taxe professionnelle.
Oui, il y a toujours ce sentiment, on en parlait un peu tout à l'heure sur la question de la contrainte, quoi, hein, c'est-à-dire que c'est l'État qui décide et la liberté locale, quoi. Il faut rappeler quand même que les communes, c'est quand même aujourd'hui le seul niveau de collectivité locale qui a la clause générale de compétence, c'est-à-dire qui a quand même une capacité absolue à traiter de l'ensemble des affaires relevant du territoire communal. Donc on peut difficilement dire que la commune est complètement contrainte dans son exercice, quoi. Je veux dire, après, alors la question des moyens, c'est un peu plus compliqué, mais le pouvoir local, c'est quand même fondamentalement la commune aujourd'hui.
Laurence Lemouzy.
À ces propos auraient pu être tenus il y a encore quelques mois à l'identique. Ce sont des serpents de mer, mais ce qu'ils nous disent, parce qu'il y a eu 2010 aussi, hein, la suppression de la taxe professionnelle dont vous parliez, donc dans le temps, ce sont des événements en cascade, c'est surtout peut-être un ras-le-bol qui s'exprime de collectivités territoriales qui ont vraiment le sentiment d'être prises pour des prestataires de services de la part de l'État. On leur demande toujours de faire de mieux en mieux, avec de moins en moins, et ça, c'est un sentiment qui les exaspère.
Oui, et si on se pose la question, Daniel Bussy, par exemple, de l'application des questions liées au logement dans une commune comme celle que vous avez dirigée, donc celle de Fourmeteau, est-ce que vous êtes tout près de Bernay, de Rouen, dans cette région normande? Est-ce que vous pensez, par exemple, que vous aviez du pouvoir en tant que maire, vous aviez la possibilité de faire des choses, sachant que effectivement depuis quelques temps, le plan local d'urbanisme est passé aux intercommunalités, et que vous avez vous-même, en tant que maire, les uns ou les autres, eh bien, vous avez la possibilité de continuer à donner les permis de construire. Quelle est justement la politique qu'on peut suivre en tant que responsable et que maire à propos du logement ?
En matière d'organisation spatiale de notre commune, c'est quand même le maire qui est le seul et unique, et son équipe bien sûr, décideur. Quand il décide de mettre en place des logements sociaux ou de mettre en place de l'urbanisation ou de la ruralité, c'est quand même lui qui décide. C'est vrai que c'est encadré par des textes, par des lois, et donc le logement, par exemple dans notre commune, a toujours été plus ou moins maîtrisé grâce au document d'urbanisme qu'on a fait évoluer en permanence. Et donc le maire a quand même des pouvoirs importants puisqu'il est le représentant de la population et il doit répondre à l'attente de la population.
Mais
quand il y a l'évolution de cette population, telle que nous dans l'axe Seine, on doit bien soit y répondre, soit dire non, ça restera une commune rurale, mais avec tous ses avantages d'environnement, mais inconvénients de perte de population.
Et par exemple, vous devez décider de savoir si vous allez faire des HLM, promouvoir par exemple des lotissements, ça n'est pas la même chose, l'accession à la propriété ou la location. Tout ça, ce sont des choix que vous devez faire en tant qu'élu et qui vont peser sur l'avenir de vos communes, j'imagine.
Complètement. C'est de toute façon l'organisation de la commune, l'évolution de sa population, elle est 100% maîtrisée par les pouvoirs du maire. Chaque commune est un petit peu quand même le reflet de la dynamique plus ou moins forte du maître des lieux, si je peux dire.
Dominique Dumont, vous êtes d'accord avec cette approche, par exemple dans le domaine du logement, du maire que vous êtes ?
Oui, complètement. Surtout que de nombreuses communes ont gardé la compétence PLU, elles ne sont pas toutes prises par l'intercommunalité. Et en effet, on a la main pour redéfinir, redessiner notre village, faire le choix de maintenir un nombre de une population équitable sans progression folle, juste un maintien de la population. Mais ça nécessite malgré tout des constructions, car le desserrement des ménages, le fait des familles monoparentales font qu'il faut plus de maisons pour maintenir une population simplement dans un village aujourd'hui. Et donc il est nécessaire de construire, et c'est tout l'enjeu du conseil municipal, c'est de maintenir cette population tout en préservant les terres agricoles, en faisant des choix d'équilibre, en travaillant sur des éco-quartiers, en travaillant sur un aménagement urbain durable. Et ça, c'est un travail assez intéressant qui permet à un conseil municipal, surtout en début de mandat, de porter des projets et de redécouvrir son territoire et de se rendre compte qu'on peut, dans nos choix politiques, concrètement, à l'échelle d'une petite commune, redessiner l'ambiance et le cadre de vie de tout un chacun.
Mais cela, justement, Daniel Béard et Laurence Lemouzy, ce sont des données relativement nouvelles. Il y a 15 ans, on ne parlait pas de questions d'éco-quartier, on évoquait assez peu la question de la pression environnementale. La question de la pression était déjà évoquée, la pression sur les territoires ruraux, en particulier sur les terres agricoles, était déjà évoquée, mais elle n'était pas aussi pressante qu'aujourd'hui. On peut dire que d'une certaine façon, il y a quelque chose qui a beaucoup bougé depuis une dizaine ou une quinzaine d'années dans ces domaines-là.
Oui, et c'est une question de plus en plus sensible. Et là,
vous disiez sur l'environnement.
Oui, mais du coup, moi j'aurais tendance à dire que d'une certaine manière, le pouvoir des maires est trop puissant aujourd'hui par rapport à ça.
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Par rapport à l'intercommunalité, c'est-à-dire que on intercommunalise pas suffisamment ces enjeux-là. Enfin, ce qui vient d'être dit par les deux maires, on voit bien les effets pervers entre guillemets de ce qui se passe là. Enfin, là, on parle beaucoup de communes rurales, mais regardez ce qui se passe sur le Grand Paris, c'est-à-dire que le pouvoir des maires
avec incapacité à vraiment
l'incapacité à résoudre les déséquilibres. On parle du Grand Paris, mais on pourrait parler aussi même ne serait-ce que des villes moyennes. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur la périurbanisation dans les villes moyennes, du point de vue à la fois de l'environnement, mais aussi de la vitalité des villes-centres, etc. C'est quand même problématique, et c'est la faiblesse du pouvoir intercommunal qui est derrière ça.
Laurence Lemouzy ?
Je suis pas sûre de... J'apporterai quelques nuances. Je suis pas sûre qu'il ait trop de pouvoir. Je trouve intéressant, par exemple, que sur des sujets liés à l'environnement, c'est le maire de Langouette qui signe un arrêté pour lutter anti-pesticides. Donc on voit qu'il y a là des questions solides. Je crois que au niveau local, en fait, ce qui est devenu stratégique, c'est le quotidien. Et ce quotidien, le niveau national, lui qui est dans le liquide, hein, dans des débats qui nous échappent, ne le représente plus, ne le porte plus. Et je crois que les maires au premier chef, mais aussi les présidents de région et les départements, c'est ensemble, doivent se sentir tout à fait légitimes d'être contributifs au débat politique national. Ne serait-ce que pour le solidifier et rappeler qu'aujourd'hui, la puissance publique, elle est dans les territoires. Elle est de moins en moins, et l'impuissance politique, on peut le regretter, mais elle apparaît plus au niveau national.
Et si on prend un dernier point qui était à l'ordre du jour de notre émission d'aujourd'hui, Dominique Dumont ou Daniel Bussy, le point de la mobilité. Là, vous avez peut-être moins de possibilités, tout compte fait, en tant que maire. La mobilité, c'est certes les transports en commun, la possibilité de créer des nouveaux réseaux de transports en commun pour pouvoir permettre de transporter d'un bout à l'autre du territoire des personnes, par exemple, qui n'auraient pas de voiture. Mais c'est aussi la voiture personnelle, c'est aussi la nécessité de faire des passages pour piétons, mais surtout des territoires cyclistes, par exemple. Tout cela sont des nouvelles données qui vous échappe peut-être un peu en tant que maire, Daniel Bussy.
Pas forcément.
Je pense vous avez tous les pouvoirs.
Faut pouvoir évoluer. C'est vrai que c'est indéniable. Le seul moyen efficace de déplacement, c'est la voiture. Peut-être pas loin, mais peut-être pas plus pas loin que les bouchons parisiens à certaines heures. Et que, par contre, on peut aussi imaginer toutes sortes de déplacements tels que nous mettons en place actuellement, et ça fonctionne, un BlaBlaCar local, c'est-à-dire avec un numéro unique maîtrisé par la communauté de communes sur lequel chacun peut faire appel avec des lieux de montée et de descente qui fonctionnent parfaitement bien. Nous avions mis aussi en place, par exemple, des taxis répondant aux attentes de nos concitoyens pour aller faire des courses en ville, dans les grandes surfaces ou les commerces, avec tout ça, une participation autant des commerçants que du taxi que des citoyens. On peut tout imaginer aujourd'hui. C'est la technique nous le permet, surtout les échanges. Actuellement, on peut tout faire. Et par contre, les transports en commun, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a souvent des problèmes de rentabilité. Et c'est là que la communauté de communes peut aussi être solidaire.
Vous êtes vraiment très optimiste.
Tout à l'heure, je voudrais revenir sur ce que j'ai entendu sur la l'utilisation de l'espace
dans les
grandes villes et autres. En campagne, dans nos mondes, on est beaucoup plus vigilant et on a des documents d'urbanisme intercommunaux qui permettent de parfaitement organiser l'espace.
Sur cette mobilité, vous êtes peut-être moins optimiste que votre confrère Daniel Bussy, Dominique Dumont. Dans la Sarthe, vous dites tout compte fait, cette question de la mobilité, ce n'est pas nous qui pouvons nous en occuper en tant que maire, c'est plutôt un sujet qui remonte au niveau de la région.
Pas du tout, je suis à peu près d'accord avec ce qui était dit sur le sujet de la mobilité. En fait, on a la capacité en tant que maire d'agir à l'échelle de notre village. Donc la mobilité, c'est aussi des liaisons douces, c'est aussi des pistes cyclables, c'est aussi un endroit pour accrocher son vélo près de l'arrêt de bus, c'est aussi mettre à disposition un véhicule électrique en location pour que les gens qui n'ont qu'un seul véhicule ou les plus jeunes qui viennent d'avoir leur permis ou les familles en difficulté puissent se déplacer à un coût modeste. Donc c'est aussi ça la possibilité qu'a une commune de proposer comme service. Donc évidemment, cette mobilité reste modeste. Elle reste à l'échelle de la commune, mais je pense que c'est aussi là la clé, c'est-à-dire que moi, sur mon mandat, je finis mon deuxième mandat, je n'ai pas en mémoire un projet que nous n'avons pas pu faire aboutir. À partir du moment où le projet qu'on a, il est à l'échelle du village, il correspond à un besoin qui à l'échelle de la communauté du village, le maire a la capacité de le porter, trouvera les financements et pourra aller jusqu'au bout de son projet à partir du moment où il est justifié, nécessaire et qu'il correspond à un besoin à l'échelle du village. Et sur la mobilité, c'est le même sujet. Bien évidemment, si ensuite on parle de rabattage vers les gares, de lignes vers la préfecture, évidemment, on change d'échelle, l'intercommunalité, mais encore que dans les intercommunalités rurales qui auront peu de moyens financiers, ce sera plutôt la région qui aura cette capacité.
Laurence Lemouzy, tout compte fait, on a deux maires qui nous disent c'est pas si difficile et on a vraiment du pouvoir. C'est assez étrange parce qu'on n'est pas dans le blues des maires en les écoutant ces deux-là.
Non, on n'est pas du tout dans le blues des maires, mais parce que on jongle là, et ils jonglent, mais ils en ont tout à fait le droit, avec les notions de proximité et de territoire pertinent. Pour eux, leur frontière, c'est le territoire pertinent, celui du quotidien, et ils sont en proximité. Ce qui est vrai et qui apporte beaucoup à la société, mais on peut pas, enfin, les affaires publiques ne sont pas que du quotidien, et les niveaux stratégiques, notamment de la région, ont toute leur utilité, et on peut imaginer quand même un meilleur chaînage.
Et donc, sur ce point, vous qui êtes aussi professeur à l'Institut, à l'École d'urbanisme de Paris, Daniel Béard, un dernier mot?
Moi, je crois que, en fait, ce qui se joue, c'est la redéfinition du rôle des collectivités de proximité, ce que vient de dire Laurent. C'est-à-dire que je pense que la proximité, il y a une proximité politique du lien social et sur lequel c'est vraiment la responsabilité du maire. Et puis, il y a autre chose, qui est ce qu'on vient de dire, c'est comment agir dans une société en réseau. Et ça, je pense que c'est plutôt l'intercommunalité.
Merci à tous les quatre. Merci à Dominique Dumont, président de l'Association des maires ruraux de la Sarthe et maire de Fercé-sur-Sarthe. Merci à Daniel Bussy, maire de Fourmeteau, qui est une commune qui a fusionné en 2019 et qui vient d'arrêter. Donc, il ne se représente plus. Daniel Bussy, après 31 ans de mandat. Merci à vous, Daniel Béard. Je rappelle que vous êtes géographe et professeur à l'École d'urbanisme de Paris. Et à vous, Laurence Lemouzy, vous êtes directrice de la revue Pouvoirs locaux. Puis citons justement un des derniers numéros de Pouvoirs locaux. Quel meilleur avenir pour la commune au 21e siècle que la revue Projet fait un numéro sur la vrai pouvoir des maires, que la revue Zadig qui sort demain, eh bien, s'interroge sur ces maires qui changent la France. On voit que c'est effectivement une question tout à fait pertinente, ainsi que le dernier numéro d'Alternative économique qui porte encore justement sur ce pouvoir des maires. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Louise-André, Fanny Richer, Rémi Bay, Hugo Boursier, Manon Prissé, Jordan Fuentes étaient avec nous à la technique aujourd'hui. Alexandre Manzanares à la réalisation. Remercions France Bleu Maine pour avoir accueilli dans ses studios Dominique Dumont et pour France Bleu Normandie à Rouen d'avoir accueilli Daniel Bussy.